Avec Suno Assurance, pensez à renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série de portraits dans Priorité Santé. Ces portraits que l'on retrouve tout au long de cette semaine, des entretiens avec des femmes, avec des hommes médecins praticiens engagés pour la santé publique, des parcours de vie exceptionnels.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Denis Mukwege, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes gynécologue, fondateur et directeur de l'hôpital de Panzi, ici à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci infiniment de nous accorder de votre temps précieux, d'accueillir l'équipe de Priorité Santé aujourd'hui. Nous avons donc enregistré cet entretien, docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Cette récompense, vous la partagez avec Nadia Mourad, jeune femme irakienne issue de la communauté yézidi, séquestrée, violée par ses tortionnaires. Nobel donc pour vous deux, pour votre combat commun, votre lutte pour mettre fin aux violences sexuelles comme arme de guerre. Votre dernier livre publié au printemps dernier chez Mardaga s'intitule « Réparer les femmes », livre co-signé avec le docteur Guy Bernard Cadière. On va longuement, au cours de cette émission, revenir sur votre parcours, les rives du lac Kivu, Kinshasa, l'Emera, Angers en France, Bruxelles, Ouméa en Suède, Nairobi, itinéraire d'étudiants, de médecins, spécialisation, militants, hommes tantôt meurtris par l'adversité, tantôt renforcés par la reconnaissance internationale. Un engagement qui vous conduit partout dans le monde, mais vous revenez toujours ici, toujours dans votre ville, Bukavu. Docteur Denis Mukwege, comment est-ce que vous pouvez décrire cet attachement au Sud Kivu ?
Si j'ai fait le tour du monde pour plaider la cause des femmes congolaises meurtries par deux décennies de guerre, c'est pas pour les abandonner, c'est pour continuer jusque, et je l'espère bien, que ces femmes puissent retrouver non seulement leur dignité, mais retrouver la paix et pouvoir travailler librement et gagner leur vie librement.
Vous êtes ici chez vous, docteur Denis Mukwege, mais c'est une terre d'effarement hein, quand on entend les récits des femmes ici à l'hôpital de Panzi. Des fois, on ne peut pas contenir ni ses larmes ni sa colère. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez connu ce Sud qui vous apaisait ?
Absolument. Je crois qu'il y a une période où ces pays, cette région était magnifique. Et j'ai de bons souvenirs quand je pouvais aller faire mes promenades dans les forêts du Sud Kivu, des forêts magnifiques avec des paysages. Il y a le lac, il y a les montagnes, il y a des endroits où vous pouvez passer des heures en train tout simplement de réfléchir, puisque je pense que le bon paysage est de, tout simplement avoir de nouvelles idées. Et je me rappelle de cette période de ma vie où c'était un pays des rêves.
Et cette terre, vous avez choisi d'y bâtir votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Vous avez créé ici cette structure médicale, l'hôpital de Panzi, 20 ans hein, cette année, en 2019. Alors cette structure, elle est absolument exceptionnelle, et ce à plusieurs titres. Peut-être d'abord par la violence qu'on y ressent, et pourtant, quand on y pénètre, il y a un apaisement qu'on ressent également, avec aussi toute une organisation. Tout ça, c'est très structuré, c'est très pensé. Au fur et à mesure, j'imagine que vous avez compris quelles étaient les nécessités pour ces femmes, docteur Mukwege.
Absolument. Il y a 20 ans, lorsque nous avions commencé la construction de cet hôpital, même cette idée, c'était loin de nous de s'imaginer ce qui allait se passer à cet endroit. On avait tout simplement une idée, comme on laissait les femmes en Afrique beaucoup perdre leur vie en donnant la vie. Et pour moi, c'était inacceptable de voir ce que les femmes subissaient. La mortalité maternelle est parmi les taux les plus élevés de la planète, alors qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour permettre aux femmes d'accoucher dans des conditions, donner des soins obstétricaux qui permettent à ce que les femmes puissent avoir des enfants sans pouvoir forcément penser à la mort. Aujourd'hui, une femme qui est enceinte ici, elles vont jusqu'à faire leur testament puisqu'elles ne sont pas certaines de pouvoir donc amener cette grossesse à terme et continuer à vivre. Et vous comprenez que lorsqu'on est dans des pays où on a étudié dans des pays où finalement la grossesse, c'est tout à fait un état physiologique, et qu'ici, c'est plutôt un danger permanent où on frôle la mort à chaque accouchement. Je crois que pour moi, cet hôpital, je me disais, il faudrait qu'on ait un endroit où les femmes peuvent se sentir en sécurité lorsqu'elles sont enceintes, qu'elles peuvent accoucher en toute sécurité.
La sécurité, la santé et aussi le respect. Donc, c'est une approche multiple hein, ici, un guichet unique. Et j'aimerais, docteur Denis Mukwege, que vous reveniez sur cette définition d'un mot qu'on entend ici tout le temps. Ce mot, c'est holistique.
Absolument. C'est-à-dire que lorsque nous avions commencé, comme j'ai dit, l'objectif, c'était de prendre en charge les femmes enceintes. Mais la première victime n'était pas venue pour une grossesse. Elle était violée avec une extrême violence. Et donc, pour nous, nous l'avons traitée à cette époque sans s'imaginer qu'il y aura malheureusement des milliers de femmes qui vont suivre. Et je crois qu'après avoir traité pendant une année, on s'était aperçu assez rapidement que les femmes, après les avoir traitées physiquement, donc les opérer, leur donner des médicaments pour des infections, etc., les femmes ne partaient pas. Elles restaient à l'hôpital, elles avaient d'autres plaintes qui n'avaient plus rien à voir avec la plainte primaire donc pour laquelle elles étaient hospitalisées. Et petit à petit, on s'était rendu compte que ces femmes étaient profondément traumatisées et que notre traitement physique ne suffisait pas. Là, nous avons pu ajouter un deuxième pilier de notre prise en charge, qui est la prise en charge psychologique. On a engagé des psychologues, on a formé des assistantes sociales, et là, on a vu un changement. Les femmes qui étaient guéries physiquement, mentalement, elles devenaient... Après la prise en charge psychologique, elle devenait capable de pouvoir s'exprimer, de braver la honte. Et elles avaient envie de retourner à la maison, retourner chez elles pour recommencer la vie. Mais comment recommencer la vie dans une communauté, dans une société qui vous rejette? Et là, effectivement, les choses nous ont amené tout simplement à créer le troisième pilier, qui est le pilier de la prise en charge socio-économique, puisque les femmes avaient besoin de retourner, mais de s'occuper de quelque chose, avoir la possibilité d'être autonomes pour que leur voix soit aussi écoutée dans la société. Et là, nous allons voir tout simplement la magie, la première magie de cette prise en charge holistique, des femmes qui étaient complètement isolées, rejetées. Une fois qu'elles revenaient dans le village, elles ont appris de nouvelles professions ici à l'hôpital. Elles devenaient même le point économique de leur village. Je dirais même que c'est elle qui s'impose maintenant dans la société par ce fait d'être autonome. Mais lorsque les femmes deviennent autonomes, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, ces femmes se rendent compte que ce qui m'est arrivé n'était pas normal. Elles se rendent compte qu'elles ont besoin de plus qu'être autonomes. Elles ont besoin de plus qu'avoir une santé physique et mentale. Et là, souvent, elles reviennent chez nous pour nous demander... Je connais celui qui est responsable de ce qui m'est arrivé. Celui qui m'a violé est toujours dans mon village.
Réclamer justice.
Réclamer justice. Et là, nous avons une équipe de juristes, nous avons des avocats qui les accompagnent devant les cours et tribunaux. Et il est vrai que souvent les femmes vont en justice, pas tout simplement pour que leur bourreau soit réprimé, mais c'est surtout pour que leur statut de survivante soit reconnu, qu'elle soit reconnue par la société, que ce n'était pas de leur faute, elles ne l'ont pas cherché, et qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ce qui s'est passé. Et donc, c'est aussi une façon de lutter, puisqu'il y a des femmes qui nous disent « je vais à la justice pour que ma fille ne puisse pas connaître ce que j'ai connu ». Donc, il y a aussi cette notion de prévention derrière donc ces demandes de la justice. Et malheureusement, souvent, même lorsqu'elles ont gagné, elles ont juste un papier où on leur dit « en fait, votre bourreau a été condamné ». Elles sont très fières d'avoir ces papiers. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut aller plus loin. par rapport à ses désirs, ces femmes ont besoin d'une réparation. Et la réparation peut avoir plusieurs formes, mais il faut avoir une réparation.
C'est votre combat aujourd'hui, justement, obtenir cette réparation au niveau international. C'en est où ? Parce que vous parcourez le monde, hein, on le sait, on vous voit d'une capitale à l'autre, avec ce message non à l'impunité. Ouvrez les yeux, vous, ici au Congo, mais partout dans le monde, ouvrez les yeux, parce que la violence faite aux femmes, eh bien, c'est pas une calamité qui s'abat uniquement sur le Congo, c'est une réalité mondiale. On en est où de ces réparations ?
Absolument. Je crois que dans mes contacts, puisque quand j'avais décidé de quitter de temps en temps le bloc opératoire pour faire le plaidoyer, je m'étais assez rapidement rendu compte que le problème qu'on connaissait ici au Congo, c'est un problème malheureusement qui est dans tous les conflits. Dans tous les conflits au monde, le viol a été utilisé largement comme une arme de guerre. Soit le viol a été utilisé pour faire un nettoyage ethnique, comme Rwanda, comme
Bosnie,
ou même au Sud-Soudan, ça a été utilisé comme une arme de nettoyage ethnique. Mais aussi, les viols ont été utilisés pour l'esclavage des femmes, comme par exemple en Irak, en Nigeria avec les Boko Haram, et en fait au Congo, en République démocratique du Congo, le viol a été utilisé comme une arme, donc dans un conflit plutôt de type économique. Et là, nous avons le Congo, nous avons également la Colombie. Au Congo, c'est le coltan, en Colombie, c'est la cocaïne. Et donc, cette arme qui est utilisée dans tous les conflits, avec des conséquences énorme sur non seulement la victime, mais aussi sur la société, j'ai compris que, en fait, c'est un problème qui est global et qu'il faut absolument avoir une solution globale. Et cette question des réparations aujourd'hui, et c'est la question qui est sur notre agenda, puisque nous considérons que les femmes, lorsqu'elles ont subi ce type de tort, on ne peut pas tout simplement les abandonner. Il faut absolument que la société puisse réparer ces torts qu'elles ont connus.
Une action, un plaidoyer, docteur Denis Mukwege, qui vous a conduit le 10 décembre 2018 à Oslo pour y recevoir le prix Nobel de la paix. Alors, on revient un petit peu plus d'un an en arrière pour écouter la toute fin du discours que vous aviez prononcé ce jour-là.
Les défis est clair et il est à notre portée. Pour les Sarah, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez, trop c'est trop, la paix maintenant. Je vous remercie.
Docteur Denis Mukwege, votre défi, votre passion, les ovations, est-ce que votre engagement, c'est une mission ?
Mon engagement, c'est un devoir. Un devoir pour une humanité qui souffre. Un devoir par rapport à toutes ces femmes qui demandent tout simplement qu'on les laisse vivre en paix. Un devoir, puisque je crois que devant l'humanité qui souffre, garder le silence, c'est devenir complice.
Est-ce que cette notoriété internationale, Denis Mukwege, elle vous vaut des critiques, elle vous vaut des reproches ? On sait qu'ici, à Panzi, vous êtes sous protection. On sait que certaines personnes ont déjà, par le passé, essayé d'attenter à votre vie. Mais dans l'opinion, même dans la rue, ici à Bukavu, est-ce qu'il y a des gens qui disent « il se prend un petit peu trop au sérieux, il se prend un petit peu pour le roi des rois ». Qu'est-ce qu'on dit de vous ?
Je crois que c'est une question que vous devriez poser aux gens.
Je n'ai pas très envie de leur poser, à vrai dire.
S'ils disent des choses sur moi, peut-être qu'ils ne vont pas me les dire directement en face.
Oui.
En face donc, mais ce que je sais est que lorsque nous avons des personnes qui sont responsables de ces crimes sexuels, de ces crimes contre l'humanité, il est tout à fait normal que ces gens puissent avoir des attitudes parfois menaçante, intimidation, ou même essayer d'attenter à ma vie, puisque peut-être je dérange. Mais je crois que ce que j'ai dit, c'est la vérité, et c'est pour ça que je ne peux pas me taire par rapport à ça. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, les femmes du Congo puissent jouir de ces beaux pays où elles vivent, mais elles ne peuvent pas vivre en paix. Et si vous parlez avec toutes ces femmes, elles vont vous dire que ce que nous demandons, c'est la paix. Nous sommes capables de faire autre chose. Nous pouvons nourrir nos enfants, nous pouvons travailler pour que nos enfants aillent à l'école. Mais pour pouvoir le faire, nous avons besoin de la paix. Et tout le reste, nous pouvons le faire nous-mêmes. Et lorsque j'ai dit qu'il faut absolument qu'on donne à ces femmes cette paix qu'elles réclament, ben, il y a ceux qui profitent du chaos, ou qui organisent même les chaos, entretiennent les chaos, et qui sont gênés par ces discours. Mais ça ne va pas nous arrêter de continuer à réclamer que les femmes soient respectées, qu'il y ait la paix, qu'on permette aux femmes en fait, d'exprimer les potentiels qu'elles ont en elles.
On va regarder en arrière, si vous le voulez bien, un peu dans le rétroviseur, docteur Denis Mukwege, votre famille, vos racines et le lien qui vous unissait à votre père, qui était très puissant. À 8 ans, c'est en discutant avec lui que vous choisissez la médecine. Il vous dit, hein, j'ai lu ça dans votre autobiographie, « Toi, tu donneras les médicaments et moi, je prierai ».
Absolument. Je crois que cette phrase, ça a été tout le fil de ma vie, le fil conducteur de ma vie, puisque je me rappelle toujours ces jours où d'abord j'ai un sentiment un tout petit peu ambigu puisque je vois un enfant souffrant, il respire mal, il a certainement il avait une fièvre élevée et on voyait que cet enfant souffrait. Et mon père avait prié. Après avoir prié, il dit au revoir. Moi, ça m'a choqué. J'avais ce sentiment que mon père était injuste, puisque moi, quand j'étais malade, je voyais très bien qu'il faisait ses gestes, il priait, il a fait les mêmes gestes pour cet enfant, mais il y a un geste qu'il n'avait pas fait, c'est que moi, il m'a donné le médicament. Et c'est vrai que j'ai dit à papa, en toute naïveté, mais vous priez, vous ne donnez pas les médicaments. Et mon père qui me répond, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai prié. Je ne peux pas donner les médicaments parce que je ne suis pas médecin. Et là, j'ai saisi cette opportunité. J'ai dit à mon papa, eh bien, moi, je vais donner les médicaments et vous, vous allez prier. Je vais être médecin pour donner les médicaments et vous, vous allez prier. Je crois que c'était un pacte que j'avais fait à 8 ans avec mon père, puisqu'après toute ma vie, je me suis battu, en fait, pour que ce pacte, un jour, devienne une réalité.
Et pour cela, vous allez à Kinshasa en 1974, mais pas dans la filière. On vous inscrit dans une filière que vous ne souhaitez pas intégrer. Ingénieur, 1974, Kinshasa. Eh bien, tout le monde a le regard braqué sur cette capitale du Zaïre d'alors, cette année-là, en raison d'un événement. Un événement qui va faire date, c'est le championnat du monde de boxe des poids lourds, le combat mythique Ali Foreman.
Muhammad Ali coming into the boxing ring for the last time. Should Muhammad Ali retire, this will be, what you're seeing now, a very historic event.
For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handled.
Pour ce combat, j'ai lutté avec les alligators. Je me suis battu avec une baleine. J'ai mis les menottes à un éclair. J'ai jeté le tonnerre en prison. Vous savez, je suis mauvais. J'ai tué un rocher, blessé une pierre, envoyé une brique à l'hôpital. Je suis si méchant que je rends la médecine malade. Je suis si rapide que je peux traverser un ouragan sans me mouiller. Quand il me verra, George Foreman paiera sa dette. Je veux noyer une gorgée d'eau et tuer un arbre mort. Attendez et vous verrez Mohamed Ali.
Kill a dead tree. Wait till you see Mohamed Ali.
Mohamed Ali, ça vous fait bien sourire, Denis Mukwege. James Brown, hein, qui partage l'affiche de Zaïre 74 avec Madame Myriam Makeba. Quel souvenir vous gardez de cette époque?
Je crois que c'était l'époque merveilleuse. J'ai souri là, puisque en fait, adolescent, j'étais entré dans ma 19e année. Et il est vrai que cette période-là, le Zaïre, c'était un pays merveilleux, un pays où on se sentait sécurisé par les institutions. Je peux me rappeler que pour la première fois que j'ai laissé mes parents, j'étais à 2000 kilomètres et quelques jours seulement après mon inscription à la faculté polytechnique, je reçois une bourse d'études. Et quand je dis ça aujourd'hui aux jeunes Congolais, beaucoup n'y croient pas. Donc on avait...
Ça marchait.
Ben, écoute, on avait une bourse d'études. Et donc, avec ma bourse d'ailleurs, je commence même une petite affaire.
Oui, c'est ça, on vous découvre un petit commerce qui va vous permettre d'entrer à la fac de médecine.
Voilà, exactement, pour essayer de poursuivre même mes études. Donc, c'est vrai que c'était une période où on pouvait rêver, en République démocratique du Congo, tout jeune pouvait rêver, non seulement de faire des études, mais aussi se développer. Et je crois que, bon, dans mes petites idées, je vais toujours faire encore un peu plus. Et là, en plus de ma bourse, je me disais, mais pourquoi pas, tout cet argent, je ne veux pas le garder, autant l'investir dans autre chose qui peut me produire. Donc vraiment, c'était la période où on pouvait rêver.
Alors, 1983, votre première affectation, c'est l'hôpital de l'Emera. Et là, on peut dire que c'est le déclic. J'aime pas cette expression parce que ça a un retentissement un peu positif, mais en fait, c'est peut-être le premier choc sur la santé des femmes avec un véritable problème de santé publique. Est-ce que vous le découvrez à ce moment-là ou est-ce que vous le constatez simplement? Problème de santé gynécologique, les fistules obstétricales.
Quand j'arrive à l'Emera, je venais de faire ma thèse en pédiatrie sur la vaccination de nouveau-nés contre l'hépatite virale B. Et donc, j'arrive à l'Emera avec cette ambition de pouvoir aider les enfants, puisque ma vocation dès le départ, c'était vraiment les chocs que j'avais avec cet enfant, avec mon père, m'avait conduit à suivre cette filière de pédiatrie. Mais j'arrive à l'Emera, j'étais seul médecin, et qu'est-ce que je découvre? Je découvre tout simplement que, en fait, les femmes venaient à l'hôpital pour mourir, puisque souvent, elles commençaient leur travail à la maison. Et lorsqu'elles n'arrivaient pas à coucher, normalement, on les transportait, on les amenait à l'hôpital. Mais parfois, on les amenait, elles ont saigné à blanc et qu'il n'y avait plus rien à faire ou elles étaient déjà mortes quand elles arrivaient à l'hôpital. Et vous imaginez, quand on arrive à avoir 2 cas par jour de femmes qu'on vous amène, mais qui sont déjà mortes puisqu'elles ont saigné, effectivement, là, je commence à réaliser que je veux soigner les enfants, mais pour avoir des enfants,
il faut avoir
des mères en bonne santé. Et dans cette logique, directement, je commence à penser à faire la gynécologie obstétrique que je n'avais pas pensé au départ.
Alors, cette spécialisation, ce sera en France, à Angers, puis vous rentrez dans le Kivu, à l'Emera, vous y devenez médecin-chef en 1992, et 94, c'est l'année où vous êtes chassé de l'hôpital, l'afflux de réfugiés Hutus en provenance du Rwanda voisin. Et puis 2 ans plus tard, votre hôpital est attaqué. Là, c'est un choc terrible.
C'est un choc terrible. Je dois dire que dans ma profession, c'était la première fois que je sentais que je n'étais plus capable de continuer à soigner les malades. Donc, j'avais opéré les malades, je me rappelle très bien, le mardi. Et elles ont été assassinées juste après moi. J'évacuais un de nos techniciens qui avait fait une thrombophlébite. Je l'avais amené ici à Bukavu. Et après, donc quand j'avais quitté l'hôpital, le samedi, l'hôpital avait été attaqué. Et tous les malades qui n'ont pas pu fuir l'hôpital, y compris les staffs, étaient assassinés. Et c'était terrible. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans. Chaque initiative que j'essayais de prendre, il y a toujours comme si de voix qui revenaient à moi et ça m'a vraiment abattu et c'était très très dur de surmonter ce traumatisme que j'avais connu à cette époque.
Alors vous allez trouver refuge au Kenya avant de rentrer en 99. Vous allez fonder l'hôpital de Panzi, hôpital très important. À vos yeux, ça repose sur un travail d'équipe et au sein de cette équipe, eh bien, il y a le docteur Nima Rukungu. Docteur Nima Rukungu, bonjour.
Bonjour.
Alors ici, tout le monde vous appelle docteur Néné, donc au cours de cette interview, je vais vous appeler comme ça, hein, on ne va pas changer les habitudes ici à Panzi. Vous êtes médecin résident en gynécologie. J'aimerais vous demander le moment où vous avez pour la première fois croisé le chemin du docteur Denis Mukwege, c'était quand et dans quelles circonstances?
À ma naissance. Je venais de naître, donc j'avais 1 jour et il était là. Donc le docteur Mukwege, en fait, je veux dire, c'est un peu mon papa, quoi. Non, c'est pas un peu, c'est beaucoup mon papa. Le papa, donc il a été là quand je suis venue au monde. Il m'a vu grandir. les premières piqûres, en fait, que j'ai reçues, je crois que j'avais 6 ans, pour des angines. C'est lui qui me les a faites. Et donc, parfois, je le regardais avec un très mauvais œil. Pendant un mois, il m'a fait des piqûres. Et ça, c'est vraiment une petite histoire hein, que j'ai avec lui. Après, bon, j'ai évolué, je suis devenue adolescente. Oui, j'avais des problèmes parfois de petits problèmes de santé un peu. Et c'était un peu le médecin attitré, en fait, ça, c'est le médecin de ma famille. Et la collaboration sur le plan professionnel a commencé maintenant, d'abord pendant que je faisais certains stages en médecine générale, notamment, je suis venue la première fois à Panzi, c'était en 2002, pour le stage en gynéco-obstétrique, pour la médecine générale. Et là, j'étais avec lui, il m'a vraiment... Et c'est là où la première fois j'ai vu les femmes victimes de violences sexuelles. Parce que j'avais assisté à une scène qui m'avait trop choquée. C'était en 2003, j'étais en stage ici et j'avais assisté à une femme, en fait, qui devait accoucher, mais qui ne voulait pas, en fait, de cet enfant. Et au moment où la tête était en train de sortir, il y a l'accoucheuse, en fait, et le docteur qui était là, qui me disait, essayez de prendre vraiment, parce que là, elle a voulu croiser les jambes pour étouffer l'enfant quand il voulait sortir. Et moi, je comprenais pas, en fait, parce que les autres mamans, elles sont quand même assez ouvertes, malgré toute la douleur, elles veulent avoir cet enfant. Quand on lui dit, tu vas tuer l'enfant, il faut faire attention, c'est la chose sur laquelle... Mais elle... C'est là où elle bloquait vraiment, elle voulait pas. Et là, en fait, ça m'avait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée, en fait, et conduit, en fait, dans cette prise de décision, parce que cette image est restée vraiment gravée en moi. Et à peu près, je crois, c'est 4 ans après, malgré que j'étais dans d'autres hôpitaux, je me suis dit, avec toutes ces histoires, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, j'ai arrêté là où je travaillais et je suis venue demander un stage à Panzi. Je me disais, j'ai envie, en fait, de vivre ça, de voir, d'aider, de faire quelque chose aussi, d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle, je disais à mon mari, bon, j'arrête là-bas, je veux faire même 6 mois seulement, mais au moins je sentirai que je fais quelque chose de vraiment utile pour moi et pour les autres. Et donc, je voulais être là.
On entend cette volonté d'être utile. J'ai une question sur le docteur Mukwege. Est-ce que parfois, face à ce qu'il voyait, vous l'avez senti en colère?
Trop, oui. Oui. En colère d'abord, oui. Parfois, vraiment... Il était très, très, très en colère, en fait. Il se disait, il y a des choses qu'on voyait, il se disait, est-ce qu'un homme, un être humain peut faire ça? Et tu vois, c'est pas comme on a la malaria, c'est pas comme c'est des choses qui vont arriver, quelque chose d'extérieur. Mais c'est un autre être humain qui inflige à l'autre personne des choses tellement atroces, indescriptibles, en fait, que tu ne sais pas comment tu vas réagir par rapport à ça. Et là, souvent, en fait, il a été très, très en colère. Parfois, il a été très découragé, déçu, en fait. Et je me rappelle, parfois, il dit, « Mais quand vous voyez ça, vous, les jeunes, vous faites quoi ?» Tu vois, des fois, il dit, « Moi, là, c'est, si on me donnait une machette, c'est des hommes comme ça que je pouvais même castrer. » Tu vois, il y a parfois... Il sort des trucs, vraiment, il est très, très en colère, il est très, très... Parfois, c'est toute l'émotion, tu le vois, il a pleuré au bloc, des fois, et il y avait tout un froid, vous ouvrez, vous voyez des choses où vous dites, non, Seigneur, c'est la fin du monde, quoi. Donc, ça reste un être humain, en fait. Je crois qu'il donne une image d'un type très fort à l'extérieur et tout, mais c'est quelqu'un de très, très sensible et qui... se met à la place, en fait, de l'autre et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel, même dans sa façon de travailler.
Quelqu'un d'exceptionnel qui inspire le respect. Est-ce que pour autant, des fois, vous arrivez à lui dire non? Non, ça suffit, là, tu vas trop loin.
Mm-hmm. Oui, je crois que je suis parmi les rares qui lui disent parfois non. Je me rappelle une fois en riant, en fait, il appelle, en fait. Parfois, tu vois, quand il dit non, j'ai besoin de telle personne. Le réflexe, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu essaies de te contrôler pour dire... Et il m'avait dit, mais toi, quand je t'appelle, tu n'as pas peur de moi, toi? Je dis, non, mais je ne veux pas avoir peur, parce que si je me réponds, si, c'est une faute. Vous allez me donner la remarque, je veux corriger. Si, j'ai bien fait. Ok, j'ai droit à un chocolat, donc c'est comme ça. Oui, parfois, je crois que j'ai la chance de pouvoir de temps en temps lui dire ce que je pense.
On sent l'immense respect, malgré tout. Est-ce que vous diriez qu'il a des défauts?
Ouais, je pense qu'il a des défauts. Quel est le défaut? Le défaut que je pourrais lui trouver, c'est que autant, en fait, il a cette capacité. Lui, il travaille trop entre nous. On se dit, non, mais ce vieux, parfois, est-ce qu'il n'est pas dopé, parfois, quoi? Là, et nous, on se dit, il nous fait bosser comme des dingues. Non, je sais pas, en fait, on le prendrait pas pour un défaut, forcément, tu vois. Mais nous qui sommes en train de travailler, je te dis, non, mais le vieux, là, non, 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 quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Moi, je prendrais ça comme ça, mais c'est un bosseur comme tu n'as pas idée. Donc, à côté de lui, en fait, tu te dis, je suis... 20-25 ans plus petite que lui, donc je n'ai pas le droit, moi, de me fatiguer quand lui, il est encore là, tu vois. Donc, c'est quelque chose vraiment qui te motive quand même et qui t'aide à t'améliorer de davantage chaque jour.
Dernière question. À aucun moment, vous avez regretté d'avoir croisé son chemin?
Non, jamais. Jamais, je crois, non, non. Ça, je peux le dire avec toute la certitude, 200%. Non, ça, je crois que ça a été... une des plus grandes choses qui me suis arrivée dans la vie, en fait, c'est de le rencontrer. Parce que ça a tout changé, tout ce que je suis aujourd'hui, toute ma façon même de voir le monde, ma façon même d'exercer mon métier de médecin, ma façon même d'être en tant que mère, en tant que femme, en fait, ma façon même de m'épanouir, en fait. Il y a des choses où il nous a tellement boosté, moi personnellement. Il disait, non, mais vous pouvez pas être autant trop timide. Les femmes, c'est vous qui devez changer les choses. Et moi, si j'ai évolué chaque jour, je dis, si j'ai vraiment évolué, c'est que il a pris aussi le temps, il inspire vraiment mon mari, tu vois, et qui dit, ok, je crois que tu dois vraiment évoluer, tu dois aller de l'avant. Et donc, tu vois, tout ce soutien que j'ai, et même quand il y a quelque chose, il y a un truc, il appelle mon mari pour dire « Non, 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 j'ai besoin, ta femme, elle va faire ceci. » Et donc, tu vois que c'est... Je me dis tout ce que j'ai fait maintenant, vraiment, il en fait partie. Pas de manière indirecte, mais directement. Même mon comportement, en fait. Parce que tout ce que j'ai rencontré après sur mon parcours, c'est à cause de lui, en fait, que je l'ai fait.
Docteur Néné, un des piliers de votre équipe, est-ce que vous diriez, docteur Denis Mukwege, on vous retrouve pour ce portrait dans Priorité Santé, est-ce que vous diriez que cette équipe, c'est une autre famille?
Effectivement, je crois que je rigolais un tout petit peu quand...
Oui, vous avez beaucoup souri en écoutant.
Oui, quand j'écoutais Néné. Effectivement, vous pouvez sentir que nous sommes une famille. Nous partageons des moments très, très difficiles, puisque je crois qu'il y a des moments de pleurs aussi, il y a des moments de colère, il y a des moments où nous avons aussi cette satisfaction de ce que nous faisons. Et je pense que lorsque vous êtes dans une équipe où vous partagez les mêmes objectifs, vous partagez aussi bien la peine que la joie, ça fait toute la différence de travailler dans une équipe qui se soutient mutuellement.
La médecine, votre famille, et puis encore un petit retour en arrière, hein, puisque très tôt dans votre parcours, vous avez un lien avec un pays des antipodes où il fait très froid, c'est la Suède. La Suède qui vous permet notamment de financer vos études, et puis qui est toujours à vos côtés depuis très très longtemps, ce qui nous permet de faire une petite respiration musicale, j'espère. C'est à votre goût, docteur Mukwege.
Chiquitita.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm sure that you can cry on.
Alors peut-être que cette illustration est inattendue pour celles et ceux qui nous écoutent. Je suis sûre qu'on ne vous l'a jamais faite, celle en interview.
Ah, non, je crois que... je crois que c'est une musique qui m'inspire. Et d'ailleurs, quand ils étaient en train de chanter, je me suis un tout petit peu posé la question si ce n'est pas aussi à cause de la musique religieuse et suédoise qui peut avoir une connexion avec ce type de musique.
Avec ces chœurs comme ça qui remontent.
Exactement.
Et d'ailleurs, si on s'arrête aux paroles, tu danseras encore une fois et la douleur s'arrêtera. Vous n'aurez pas le temps de pleurer. Mais les femmes qui pleurent ici, elles ne pleurent pas pour des chagrins d'amour. Et ça, c'est toute la différence. Une peine d'amour, c'est une peine de femme. Alors que les peines que vivent les femmes ici, elles sont indicibles. Et c'est ça toute la différence entre... Le respect de la femme, on fait des choses qui sont inimaginables.
Moi, j'ai encore beaucoup d'interrogations par rapport à ces comportements par rapport aux femmes. Et pourquoi les femmes doivent pleurer? Pourquoi les femmes doivent souffrir? Puisque l'inverse, on peut très très bien voir le comportement des femmes par rapport au reste de la société, au reste de la famille. Je le vois très bien ici à l'hôpital. Même lorsque les femmes sont hospitalisées, elles continuent à s'occuper des autres qui sont en bonne santé.
Elles consolent.
Voilà. Et ça, c'est une force inouïe. Et pourquoi elles doivent recevoir l'inverse de ça, de la part de la société, des hommes spécialement? Ça, c'est vraiment une grande interrogation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats pour une masculinité positive, une masculinité qui permet à ce que nous puissions comprendre que notre bonheur...
Et pourtant, certains hommes interprètent cela comme une agression en disant « Vous voulez nous priver d'être un véritable homme, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce vrai homme qui martyrise la femme ?» Qu'est-ce qu'il y a ?
Je crois que c'est une erreur d'interprétation, parce que je pense que le bonheur des hommes sera un bonheur complet, lorsque les hommes sauront donner le bonheur aux femmes.
Mais comment est-ce qu'ils ont oublié les fils qu'ils étaient ?
Absolument. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pour cette raison que moi, je prêche cette masculinité positive. Puisque je trouve que la souffrance des mères, c'est comme si elles avaient tellement peur que leurs filles ne souffrent pas de la même façon, qu'il y a un fort désir, un désir très très puissant d'avoir un garçon. Et lorsqu'on a un garçon... On les met au piédestal, on les met dans une position où le garçon sent qu'il est tout à fait différent de ses sœurs. Et je crois que c'est nous-mêmes qui créons cette masculinité. C'est nous-mêmes qui créons ce profil qui devient en fait un profil toxique pour la société.
Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous dites, en dépit de votre notoriété, suscite colère et même parfois indifférence? Peut-être ce qui est encore pire, on ne veut pas entendre ce que vous dites, docteur Denis Mukwege. Est-ce que ce que vous dites est entendu ici au Congo? On vous voit sur les télévisions en Europe, dans le monde, aux États-Unis. Ces images, ce discours du Nobel a fait le tour du monde. Est-ce qu'on vous entend ici?
Je dois dire qu'il y a 20 ans, c'était très pénible, puisque non seulement quand vous parlez de la violence sexuelle, et malheureusement, beaucoup d'hommes ont le sentiment d'être accusés, et j'ai dit toujours, la majorité d'hommes ne violent pas, ils savent chérir.
Tous les hommes ne sont pas des prédateurs.
Voilà, exactement. Tous les hommes ne sont pas des prédateurs. Le grand problème avec les hommes, c'est qu'ils ne sont pas prédateurs. Malheureusement, ceux qui ne violent pas, ceux qui ne commettent pas ces atrocités, malheureusement, ils ne condamnent pas ceux qui les commettent. Et ils ne se mettent pas du bon côté pour condamner les hommes qui commettent. Et ces silences-là, c'est ce silence qui est complice. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les hommes se sentent culpabilisés par une petite minorité qui viole, qui commet les atrocités. Au contraire, je crois que les hommes qui ne font pas ce type de violence devraient solidariser et pouvoir condamner plutôt ceux qui commettent ces violences. Et pour le moment, je dois dire que si en 2000, vraiment, j'avais beaucoup plus une résistance et les gens ne comprenaient pas peut-être mon discours, j'ai l'impression que mon discours commence à être compris. Et aujourd'hui, nous avons même des mouvements où les hommes sont réunis dans le mouvement Women pour pouvoir dire « nous sommes des hommes, nous réfléchissons différemment, nous considérons que la femme est égale ». Et ça, ce sont des concepts qui étaient très très difficiles à en parler il y a exactement 20 ans.
Alors, on comprend bien, la problématique est internationale. Tout à l'heure, vous aviez cité justement l'Afghanistan, la Syrie, la Colombie, l'Irak. Et puis, vous témoignez à New York, aux Nations Unies. L'écho mondial est donné à votre travail, à votre lutte. Et puis, vous rencontrez des personnes, des femmes. En 2006, vous faites connaissance d'une dramaturge américaine qui, elle non plus, n'a pas peur de regarder la féminité en face, le sexe féminin en face. C'est Eve Ensler, auteure d'une pièce jouée dans 140 pays, traduite dans 46 langues, Les monologues du vagin.
Le cœur est capable de sacrifices.
Le vagin aussi.
Le cœur s'est pardonné et réparé. Il s'est changé de forme pour vous laisser entrer. Il sait se détendre pour vous laisser sortir.
Le vagin aussi.
Il peut souffrir pour nous.
S'ouvrir pour nous.
Mourir pour nous.
Et saigner. Encore et encore pour nous donner la vie. Dans ce si rude, mais si merveilleux monde. Le vagin aussi.
J'étais là.
Je me souviens.
Les monologues du vagin, cette pièce sur scène en 2017, les comédiennes Marie-Christine Adam, Rachel Kahn, Juliette Lambollet, mise en scène de Coralie Miller. Est-ce que finalement, ce qui dérange aussi, docteur Mukwege, c'est que vous parlez de quelque chose dont normalement, eh bien, ici en particulier, et un petit peu partout dans le monde, eh bien, on ne parle pas?
Effectivement, je crois que le fait de parler du vagin, les gens ne tolèrent pas, c'est un tabou, on ne parlait pas du vagin en public. Et malheureusement, je crois que j'avais rencontré Yves qui parlait du vagin ouvertement. Moi, peut-être par des formations professionnelles, je suis gynécologue obstétricien, c'est là où je travaille, et donc je considère le vagin comme le cœur, comme la bouche, comme la main. Et donc parler du vagin, pour moi, il n'y a pas de tabou, ça fait partie du corps d'un humain, et donc en parler, pour moi, je n'ai... J'ai pas de réserves. Et je crois que ça, quand Eve Ensler lance le monologue du vagin, effectivement, on se croise. On s'était rencontrés pour la première fois à New York et nous avions fait une conversation à l'université. Et c'est vrai que il y avait une complémentarité puisqu'on parlait du vagin sans complexe, sans se gêner et sans tabou. Et là, je vais ajouter, aujourd'hui, j'enseigne, donc je fais la formation pour les filles victimes de violences sexuelles. Et la première chose que j'enseigne à ces filles, c'est connaître leur vagin, c'est regarder leur vagin, aimer leur vagin. C'est une façon aussi de s'aimer soi-même, puisque ça fait partie de son corps. Parce que j'ai trouvé que plus de 90% des femmes qui venaient à la Cité de la Joie, par exemple, ne connaissaient pas leur vagin. Et quand vous posez la question, c'est tout simplement puisque c'est un organe qu'on considère comme qui ne fait pas partie de leur corps, un organe qui fait la honte de leur corps. Et lorsqu'on a honte de son propre corps, on a honte de ce qu'on est soi-même, donc on se laisse à la limite donc maltraiter puisqu'on considère qu'on ne mérite pas. Et je pense aussi à un deuxième fait. Lorsqu'on met un tabou sur le mot vagin, moi je trouve que c'est de l'hypocrisie pour pouvoir en fait le violer, le faire saigner, le détruire. Et lorsqu'on en parle et qu'on peut être ouvert lorsqu'on parle du vagin, je crois que ça permet les femmes de briser le silence. Aujourd'hui, je suis très content du mouvement MeToo, puisque finalement, lorsqu'on a été violé, les femmes qui prennent le courage de dénoncer et donc transfèrent par cette façon la honte de la victime vers plutôt le bourreau. Et je trouve qu'on ne peut pas continuer à faire de l'hypocrisie, de ne pas parler du vagin, alors qu'on est en train, tout simplement, de le détruire tous les jours, de le faire saigner et tirer dans le vagin ou introduire des baïonnettes dans le vagin.
On ressort changé hein, d'une visite ici à Panzi, avec tous ces témoignages, avec tous ces mots parfois très durs, mais aussi les regards, les chants et même des jeux. Une ronde à des rires, quand on n'est jamais venu ici, on ne s'y attend pas forcément. Tout ça, c'est vraiment le fruit de votre travail. On peut dire que c'est même une récompense.
Je crois que tout ça, c'est le travail d'une équipe. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui font un travail magnifique. Je vois cette dame Esther qui s'occupe, elle est assistante sociale, qui s'occupe des femmes, qui les accompagne, qui leur donne l'envie de vivre et qui est, je crois que c'est juste formidable d'avoir une équipe des gens qui s'engagent comme ça pour redonner aux autres l'espoir.
Il y a un an à Oslo, vous avez dit « La violence macabre ne connaît aucune limite ». Docteur Denis Mukwege, comment est-ce qu'on garde la foi lorsque l'on est celui qui a créé l'hôpital de Panzi ?
Moi, je garde la foi puisque je crois en l'homme. Et l'homme a une capacité de choisir de faire le bien. Malheureusement, parfois, il choisit de faire le mal. Et je crois que lorsque l'homme choisit de faire le mal, il faut pas le rejeter, il faut aller vers cette personne, parler avec cette personne, essayer de l'amener dans la bonne direction. Et c'est vrai que vivre à Panzi avec tout ce qu'on voit de macabre, parfois on peut remettre en cause en fait l'humanité, on peut remettre en cause ces personnes qui commettent ces actes. Mais je pense que je considère tout simplement qu'ils ont fait un mauvais choix et il faut les aider à pouvoir trouver le chemin de la bonté et de la beauté.
Mais vous n'êtes jamais allé jusqu'à demander à Dieu pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ?
Je crois en Dieu qui me donne la liberté. Ce n'est pas un Dieu qui m'impose un mode de vie, une façon de faire. C'est un Dieu qui me donne la liberté de choisir entre le bien et le mal. Et je crois que Dieu n'a rien à voir dans ce qu'un homme peut faire, puisque tout homme est capable de faire le bien. Mais malheureusement, nous sommes parfois transformés par l'environnement, par la société, par notre propre histoire et que nous prenons une mauvaise voie, mais ce n'est pas Dieu qui nous amène à cette mauvaise voie. On a toujours cette capacité. Donc ça veut dire que le bien est en nous, mais lorsque nous n'exerçons pas ou nous choisissons d'exercer et de faire le mal, c'est un choix.
Votre choix, en tout cas, c'est celui résolument d'avoir fait le bien. Merci encore pour votre accueil, Denis Mukwege. Docteur Mukwege, pour préparer cette émission, je me suis appuyée sur votre autobiographie passionnante, « Plaidoyer pour la vie », publiée aux éditions de l'Archipel. Et on remercie Richard Rifono et Didier Bleu qui ont assuré la réalisation de cette émission, Ophélie Lassen, pour la préparation. On se retrouve demain pour un autre portrait dans Priorité Santé. À demain.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance. N'oubliez pas de renouveler votre assurance automobile et passez de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
7 milliards de voisins.